première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
Mais, bien sûr, on commence par Agua et Harold Fallon, qui est un des trois associés, pardon, tu vas compléter toi-même, du bureau Agua, un bureau bruxellois.
Inventaire 2016-2019. Triennale dédiée à la création architecturale en Wallonie à Bruxelles.
Avant de passer la parole à Harold Fallon, je vais peut-être laisser Pauline réexpliquer. Donc, on est les deux commissaires du projet Inventaire. On ne s'est pas présenté, on va peut-être le faire quand même. Je suis Gilles Debrun, architecte praticien à Bruxelles, enseignant à Saint-Luc-Tournai et co-commissaire du projet Inventaire, donc, qui est un processus de mise en partage de la culture de l'architecture avec vous. On va appeler des non-experts. Vous n'êtes pas pour la plupart architectes. Mais vous avez une expertise de l'architecture parce que personne n'échappe à l'architecture. Vous habitez quelque part, vous travaillez quelque part, vous allez à l'école quelque part. Et donc, tous les jours, vous êtes confronté à des bâtiments qui ont ou pas des qualités. Et vous avez acquis, par ça, une forme d'expertise.
Gilles Debrun.
On vous entend, ainsi que Pauline de la Boulay, parler à des gens.
Ces visites et ces rassemblements de personnes qui sont en fait... des gens qui ne sont pas architectes, et avec eux on visite des bâtiments représentatifs de l'architecture contemporaine en Wallonie et à Bruxelles, construits pendant les 3 dernières années. Pourquoi est-ce qu'on fait ces visites ? Parce qu'on a l'intuition qu'en fait, trop souvent, l'architecture contemporaine est mal comprise ou n'intéresse pas les gens, alors que, quelque part, on n'échappe pas à l'architecture. Tout le monde vit quelque part, habite quelque part. La plupart d'entre nous travaillent quelque part. Certains ont des enfants dans des écoles. Donc, on a tous une expérience et quelque part une certaine forme d'expertise de l'architecture en tant qu'usager. C'est dans cette idée-là qu'on fait ces visites pour fabriquer le livre à partir, entre autres, des échanges qu'on a lors de ses visites avec monsieur et madame tout le monde, j'ai envie de dire.
Et c'est ça qu'on veut dire quand on dit mise en partage d'une culture architecturale avec un public élargi, au-delà de ce qui se passe malheureusement un peu trop souvent, c'est les architectes qui parlent aux architectes et on se comprend, on a les codes, etc. Ici, on veut vous entendre, vous, pour avoir un retour de votre lecture de ces bâtiments qu'on va et de votre appréciation à charge et à décharge. Vous ne devez pas avoir peur de dire ça, j'ai pas compris, ça, je trouve ça étrange dans ce qu'on va visiter sur la demi-journée. Voilà.
Je suis Pauline de la Boulay, je suis historienne et commissaire d'exposition, donc pas architecte.
Inventaire 2016-2019. Triennale dédiée à la création architecturale en Wallonie à Bruxelles. Avec Chantal Dessonville, Adèle Jacot, Olivier Bastin, Benoît Dauchy, Evelyne Simons, Pauline de la Boulay, Gilles Debrun. Inventaire 2016-2019, par Thierry Junico.
Et pour cette édition, Gilles Debrun et moi avons fait une proposition qui change un petit peu le protocole habituel.
C'est vrai qu'ici, en discussion avec les membres du jury, on était face à une proposition assez hors norme, notamment dans son modus operandi, en fait, puisqu'il s'agit quand même d'une manière de faire qui consiste notamment à sortir un peu du regard d'expertise, du regard professionnel, pour aller vers plutôt la perception que le public et les gens de l'environnement peuvent avoir de ce qu'est l'architecture telle qu'elle est produite aujourd'hui. Donc c'était, je dirais, une prise de risque, mais qu'on a voulu assumer de manière très consciente, en se disant... C'est vrai aussi que nous, service public, moi en tout cas, j'ai toujours à l'esprit cette idée que parler d'architecture avec des architectes vers des architectes, c'est assez facile. Hein. À l'inverse, en tant que service public, comment est-ce que davantage on va vers les publics, les différents publics ?
Le protocole habituel, c'est de créer un appel, de proposer aux architectes de déposer leur construction, de créer ensuite un jury. Jury donc plutôt hors sol, que j'appelle hors sol parce qu'il est une réunion d'experts et sur base de documentation, une analyse des projets. Les visites se font par les membres du jury s'ils le souhaitent, mais il n'y a pas de visite obligatoire. À la suite de quoi, une sélection est faite et le livre est publié avec une exposition. Les directeurs scientifiques et les curateurs proposent une interprétation pour cette publication et cette exposition. Par exemple, le précédent inventaire était la proposition était de relier l'architecture à la BD.
Et je pense qu'ici, Pauline et Gilles ont fait une proposition qui avait cette dimension. Bon, après, c'est une prise de risque parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure le public va répondre, dans quelle mesure les campements vont attirer du monde. Voilà, mais en tout cas, c'était très prometteur, même si c'était risqué. Et on s'est dit, c'est aussi notre rôle à un moment donné d'oser.
Production, Fédération Wallonie-Bruxelles, cellule architecture.
On a fait un appel à projet qui, dans le texte de l'appel, contenait déjà certains éléments, certaines indications, des valeurs qu'on recherchait dans les bâtiments qui pouvaient être proposés pour cet appel.
Et à une fois, j'entends... Je dis, qu'est-ce que c'est que ça ?
La prison change.
Très agréable avec le long des étangs.
On appelle une maladie honteuse.
Vous allez où ? 11e.
Ces lieux nous parlent.
À qui est destinée cette publication, Chantal Lassonville ? Aux politiques d'abord ?
Ouais, inventeur. C'est un ouvrage que nous, ici, en tout cas à la cellule architecture, nous distribuons très très largement.
Vous nous accompagnez dans le processus de sélection, donc on est en train de faire, chaque jour, on visite 3 à 4 constructions. Et lundi soir, à 17h, on fera le débat final de sélection des projets qui resteront pour la publication donc, du livre Inventaire qui paraîtra dans un an, au printemps 2020.
Vous me parliez, Olivier Bastin, de skatepark.
Mais je vais faire la présentation après du skatepark dont on est l'auteur de projet.
Donc bien sûr, il est en vente dans toutes les bonnes librairies, mais je dirais que ce n'est pas sa vocation première, mais on le distribue très 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 largement. Moi, je pars avec un inventaire sous le bras chaque fois que je vais rencontrer un élu dans une commune qui demande à ce qu'on les accompagne pour un marché d'architecture, par exemple, ou lorsqu'on va au salon des mandataires à marche, où on rencontre tout le monde communal en l'espace de 48 heures, à l'étranger dans nos délégations, dans des conférences, enfin vraiment très très largement, on le distribue, on le donne comme étant, regardez ce qui est possible. Voilà ce qui est possible dans toutes les typologies, hein, puisqu'il n'y a pas évidemment une typologie, hein, il peut y avoir des petits bâtiments, il peut y avoir des grands bâtiments, il peut y avoir... C'est ça qui est intéressant à inventer. C'est pas de montrer les 4 plus beaux théâtres qu'on a construits ces dernières années, mais c'est de se dire, tiens, dans telle circonstance, dans tel contexte, dans tel milieu urbain ou dans tel milieu rural, telle petite chose, regardez avec une attention.
On fait des visites par groupe de 10. On visite dans une certaine partie de la Wallonie, une dizaine de bâtiments. Le premier groupe de 10, c'était à Tournai, autour de Tournai. On aura un autre camp de base à partir duquel on visite de nouveau une dizaine de bâtiments à Liège fin septembre. Et le dernier camp de base sera à Pontassel, deuxième quinzaine d'octobre.
En fait, c'est la découverte d'architecture contemporaine qui s'insère dans l'espace, mais de façon harmonieuse. Et donc, il y a déjà eu un choix préalable qui est pertinent. Les émotions qu'on peut ressentir, effectivement, à chacune des découvertes, je crois que c'est important.
Il s'agit d'un espace entre la Maison de la Culture de Tournai et le Centre Sportif de Tournai. Et c'est un espace public. Il véhicule toute la question de la culture du skate dans l'espace urbain. Et moi, je trouve ça passionnant dans cette logique-là, c'est que quels sont les équipements qui sont accessibles quotidiennement au public ?
C'est à cette occasion d'ailleurs, Pauline Delaboulay, que je que je rencontre Olivier Bastin.
Tout à fait. Olivier Bastin est un de nos trois experts et en quelque sorte parrain de l'opération parce qu'il nous a fait une grande confiance et ça on en est tout à fait reconnaissant. Donc Olivier Bastin est la personne qui a créé la fonction de maître architecte à la ville de Bruxelles et c'est une personne dont mon cheminement j'ai pu rencontrer lorsque j'étais curatrice du Being Urban. L'histoire a fait qu'il y a des personnes comme ça qu'on croise sur son chemin et avec qui on partage des valeurs et on le découvre assez vite. Et Olivier Bastin fait partie en tout cas de ces personnes-là. Et il va jouer un rôle d'expert sur le camp de Liège qui va avoir lieu du 27 au 30 septembre. Donc nous allons l'accueillir le quatrième jour du camp. C'est un lundi soir, le 30 septembre, de 17h à 20h. Pour la séance de délibération, donc nous appelons ça l'assemblée délibérative.
Pourquoi est-ce qu'on appelle ça comme ça ? Parce qu'on s'installe réellement dans l'espace public, les lieux où on se rend. Donc on s'y installe avec trois caravanes, une exposition des projets qui vont être visités. Donc on a à chaque fois une douzaine de panneaux qui montrent les projets qui vont être visités. Et les visites se passent pendant 3 jours. On visite 3 bâtiments par jour, 3 ou 4 bâtiments par jour. Et le quatrième jour, on a une soirée de délibération avec toutes les personnes qui ont participé aux visites et tout le monde est le bienvenu pendant cette soirée, même ceux qui n'ont pas visité. On reparle de chacun des projets et on délibère dans le sens où on se positionne. Chaque personne peut voter pour ses chouchous, si je peux dire.
Il y a moyen d'être toujours dans une espèce de conscience du bien faire, du faire juste hein, en architecture. Quelle que soit la typologie, la taille, le budget disponible aussi, parce qu'on a parfois l'impression, enfin c'est un message qu'on me renvoie souvent, bah oui mais faire de l'architecture ça coûte cher. Et moi je suis tout le temps en train de, voilà, c'est un leitmotiv, c'est pas vrai. Ça demande juste un peu plus d'intelligence, de temps, de subtilité, de conscience des enjeux, pour faire juste, quoi, mais pas nécessairement faire cher. Ça n'a rien à voir pour moi. D'ailleurs, souvent, on voit les architectures dans lesquelles on a mis énormément d'argent. Moi, elle me pose souvent question sur cette espèce de débordement, parfois, qui ne fait pas sens et qui du coup, occulte l'essentiel quoi, de ce que c'est une architecture.
J'ai eu l'occasion, dans le cadre d'activités antérieures ou autres, de voir de l'architecture, mais donc je ne suis pas architecte. Et dans ce contexte ici, les choix préalables qui ont été effectués sont effectivement un peu des coups de cœur pour ceux qui les ont choisis. On peut considérer que chaque fois, collectivement, on adhère à ces choix. Et donc on sera amené à effectuer dans ces choix un autre choix, donc de déterminer quels sont ceux qui sont encore les plus pertinents par rapport à 4 critères qui ont été définis. Mais il y a une notion de plaisir.
Ben c'est aussi parce que c'est un peu notre public à nous, ceux qui sont amenés à un moment donné à décider.
Ces 30 bâtiments qu'on visite ne représentent pas la totalité des projets présélectionnés. C'est un échantillon très représentatif parce qu'on fait attention à avoir une variété de programmes, habitation, logement groupé, école, crèche, lieu de travail. Mais ça reste un échantillon. Les autres bâtiments qu'on a présélectionnés et qu'on n'aura pas visités feront l'objet d'un quatrième jury, qu'on appelle le jury hors sol, vu qu'il n'est pas lié à un camp de base. Et donc, au final, dans le livre, on aura à peu près la moitié des projets qui seront issus des débats des camps de base et l'autre moitié des projets qui seront issus du quatrième jury pour arriver à peu près à une quarantaine, 40-45 projets détaillés dans le livre.
Alors le dernier inventaire, donc celui qui précède, celui qui est en cours maintenant, qui, pour rappel, avait invité des illustrateurs, des auteurs de BD, a touché très largement. Parce que tout à coup, il y avait un médium, la BD, qui permettait aussi d'accéder à une autre porte d'entrée, et qui est une porte d'entrée sensible, évidemment, parce que les BDistes n'ont évidemment pas joué à reproduire l'architecture, ils ont joué à mettre en situation hein, la question de l'architecture. Donc il y avait une vraie découverte aussi pour nous, qui est toujours intéressante, évidemment, de tester des manières différentes de parler d'architecture, en ce y compris via des techniques qui sont pas habituel, quoi, hein, parce que bon, habituellement, c'est des textes critiques ou des photos. La photo, c'est le meilleur. Mais ici, voilà, la radio, c'est quelque chose de très singulier aussi pour parler d'un art qui est souvent enfermé dans sa dimension visuelle.
C'est vraiment du sport, c'est vraiment de la culture, et c'est dans l'espace public.
Inventaire 2016-2019. Triennale dédiée à la création architecturale en Wallonie à Bruxelles.
Dans la notion de plaisir, c'est de voir que le travail de ces architectes, mais aussi des équipes qui encadrent les architectes ou qui les accompagnent, les donneurs d'ordre aussi, font qu'on arrive vers du beau, et du beau qui va pouvoir s'inscrire dans le temps et qui va marquer aussi ponctuellement du paysage, mais ça peut être à l'échelon simplement d'une petite ruelle, ou à un échelon beaucoup plus vaste, celle d'un quartier.
Oui, Chantal de Sonville, dans cette émission, quelqu'un évoque cette notion qui est hautement subjective, qui est celle de plaisir.
Mm-hmm. C'est assez chouette de la rappeler, je trouve, parce que j'ai toujours l'habitude de dire que c'est vrai que fabriquer de l'architecture, c'est une concentration de compétences sensible. Hein, c'est évidemment la première vertu d'une architecture ou d'un aménagement d'espace public, parce que aménager le vide, c'est aussi extrêmement compliqué. Hein. Il faut une très très grande sensibilité. Et donc aménager cet espace à vivre, c'est prendre en considération toute la dimension de l'humain, en fait. Hein. Isolé ou humain en famille, ou qu'il soit dans sa version humain en collectivité. Hein. Quand on parle d'espace public ou quand on parle de bâtiment public, ben, il s'agit de rassembler un certain nombre de personnes. Et donc, il ne s'agit pas uniquement de fabriquer un objet à caractère esthétique, mais il s'agit surtout de faire en sorte que les personnes qui vont habiter cet espace, d'abord, ils trouvent réponse à une fonction. Hein, et ensuite, ils trouvent plaisir à occuper cet espace. Et que cette occupation, en fait, produise en quelque sorte une envie de faire ce pourquoi ils sont là. Par exemple, si on va au spectacle, être bien dans un lieu de spectacle, ça apporte une plus-value tellement importante par rapport à simplement consommer un spectacle. Hein. Parce qu'après, il y a une manière d'être, avant ou après spectacle, qui peut enrichir complètement l'expérience d'avoir été voir le spectacle. Moi, je suis par exemple absolument convaincu que construire ou aménager des écoles de qualité, c'est un enjeu fondamental pour favoriser le plaisir d'apprendre, pour favoriser le plaisir d'enseigner aussi, d'être ensemble à l'école. Donc pour tous les acteurs de l'école, avoir des écoles de qualité, pour moi, c'est un passage obligé pour améliorer l'enseignement, par exemple. C'est vraiment une conviction. Hein. Après, l'architecture, c'est aussi un ensemble de techniques et de complexités, mais au cœur de cette complexité, au bout du compte, quand on arrive à fabriquer ce plaisir d'être dans un lieu, pour des gens qu'éventuellement on ne connaît pas, ça veut dire que c'est quand même une réussite.
Et c'est du bonheur. Et je comprends en tout cas la démarche ici de mettre en évidence toutes ces petites démarches qui sont peut-être ponctuelles, mais quand on les raccorde et quand on a l'occasion justement, dans ce contexte-ci, de les découvrir au bout de trois journées, c'est enrichissant, mais on se dit que bon, ben, y a une créativité, il y a des porteurs de bonheur qui sont là, qu'on ignore quelquefois, mais les mettre tous en évidence, c'est une chose que je trouve positive.
Je pense qu'il y a plus en plus de gens.
Gilles Debrun.
Que ce soit monsieur et madame tout le monde, les administrations ou le politique, ils se rendent compte qu'on ne peut plus continuer à grignoter les forêts, les terres agricoles, en tartinant notre territoire de villas quatre façades à l'infini. Ça, c'est une première chose qui est en train de changer. Tout le monde ne s'en rend pas compte. Certains sont dans une forme de déni ou de désintérêt et voudraient continuer à croire que rien ne va changer, qu'on peut continuer à faire la navette avec sa voiture pendant une heure pour aller de son travail à sa maison, à aller dans sa voiture pour acheter un pain. Non, je pense qu'il faut retourner vers des modes d'occupation du territoire qui sont plus compacts et qui sont en fait aussi plus conviviales d'une certaine manière. Ça se traduit par une augmentation importante des projets d'habitat groupés, mais vraiment de qualité. Alors là, franchement, je serais vraiment intéressé de visiter certains projets avec des gens qui ne rêvent que de villas quatre façades. Je suis quasi certain qu'ils seraient très surpris par rapport à leurs a priori, oui, cage à poules, machin, etc., sur ce que ça peut être aujourd'hui, habiter ensemble, un habitat groupé, où il y a un jardin collectif, où il y a un espace de ludothèque partagé, ou une salle polyvalente où on peut faire les anniversaires des enfants, où il y a un potager sur le toit, etc., etc. Et où il y a une véritable plus-value, en fait, à mettre en commun certains espaces qu'on n'aurait pas pu se payer tout seul, en fait. Voilà. Ça, c'est, je pense, les grands changements autour de l'habiter aujourd'hui, avec des pays qui nous ont un petit peu devancés sur la question, mais on est pas mal quand même. Il y a des pays qui sont vraiment en avance sur ces questions-là. C'est la Suisse et l'Allemagne, entre autres, qui ont des projets mais époustouflants.
Hein. Olivier Bastin, nous sommes à Péronne. Et je vous interroge quant à la démarche de l'inventaire.
Il faut savoir que je suis un petit peu partie prenante de l'inventaire, donc je ne suis peut-être pas tout à fait objectif. Ceci dit, quand on m'a invité, je me suis quand même posé pas mal de questions.
La Hollande a un système d'urbanisation de son territoire qui fonctionnait, un peu moins maintenant, mais beaucoup par maisons mitoyennes de façades. Et c'est déjà mieux qu'une quatre façades. C'est très bien même. Mais ce n'est pas toujours suffisant, par exemple, pour avoir une densité d'habitants qui permet, par exemple, de se dire « Tiens, on va dans ce quartier-là installer une crèche. On va réussir à faire vivre un petit écosystème de commerce de proximité. » Donc, quand je dis écosystème de commerce de proximité, je pense à une boucherie, une boulangerie, un libraire peut-être. C'est 2, 3, 4 commerces qui se tiennent ensemble. Quand un des 3 ou 4 meurt, il affaiblit les autres aussi. Pour ça, il faut arriver à une certaine densité. Celle qu'on préconise dans les nouveaux écoquartiers varie entre 25 et 50 logements à l'hectare. Ça dépend si on est près ou pas d'un centre, près ou pas d'une gare. Mais il y a vraiment des potentiels de développement, par exemple, près des gares belges. On a la chance d'avoir énormément de gares dans notre pays. Et habiter près d'une gare, c'est aussi pouvoir éventuellement se dire, près d'une gare, il y a souvent des commerces de proximité, il y a peut-être une école maternelle, etc. Et donc, devenir moins dépendant de la voiture. Moi, j'ai une voiture, mais j'essaie de ne pas l'utiliser systématiquement.
C'est très particulier le phénomène de l'inventaire en communauté Wallonie-Bruxelles. Il faut le situer par rapport à d'autres démarches de valorisation de l'architecture en Belgique et à l'étranger, où d'une manière très volontaire, si pas volontariste, on affirme l'architecture. Le yearbook flamand a été une sorte de bible de référence pour tous les architectes pendant 25 ans, tout ça lié à des politiques volontaristes également en matière d'architecture. En communauté Wallonie-Bruxelles, on n'est pas dans ce contexte-là.
Olivier Bastin.
Je pense qu'Olivier, c'est quelqu'un qui a une véritable position centrale dans l'architecture, même en dehors de son travail de Baumeister et avant ce travail-là. Déjà, Olivier avait une influence sur toute une génération d'architectes qui ont, on va dire, entre 35 et 45 ans. Par ses engagements, par l'exigence de sa démarche architecturale, il a influencé pas mal d'architectes qui sont aujourd'hui maintenant à leur tour connus. Je pense à Thierry de Kuyper, de V+, etc.
La dernière ministre a un petit peu plus agi sur l'architecture, mais en dehors d'elle, il n'y en a pas eu beaucoup. Des ministres qui ont été vraiment volontaires par rapport à l'architecture. Et donc on est dans une sorte de logique, je dirais, à la fois volontaire, forte, énergique, à vouloir valoriser des initiatives, des pôles, des identités fortes et très intéressantes, très riches, et à la fois on est dans une sorte d'hésitation, comme si on n'osait pas tout à fait affirmer « ceci est de l'architecture ».
Avez-vous l'impression, Chantal Dassonville, que le politique évolue quant à cette question, car Olivier Bastin, que je rencontre à Péronne...
Et alors, je trouve que la démarche aujourd'hui de l'inventaire, on est à la 4e ou 5e édition, si je ne me trompe pas, la démarche est de dire, eh bien oui, assumons cette logique où on n'est pas dans la Bible qui s'impose à tout le monde, ceci est de la bonne architecture, on est toujours dans cette question, on interpelle toujours le grand public autant que le politique, autant que les acteurs eux-mêmes. On essaye de faire des croisements à travers des jugements de pensée, enfin des évaluations de qualité, différents critères. C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse des processus de marché public en tout cas. Mais maintenant que je vois qu'ils gagnent un petit peu au sein des partenaires privés, donc des promoteurs commencent aussi à faire des procédures de concours en introduisant des critères d'appréciation. Et je pense que le public, progressivement aussi, se rend compte qu'une architecture, ce n'est pas juste le « j'aime ou j'aime pas », le « beau ou le pas beau », etc. C'est un ensemble d'autres critères auxquels lui-même peut contribuer dans son propre avis critique. Et alors, je trouve que la démarche d'aujourd'hui, enfin de cette édition-là, est très intéressante dans ce sens-là. Jusqu'à, on vient de l'entendre, des gens vont poser des questions très techniques, très directes, qui vont bloquer un peu le discours et l'analyse globale d'un objet architectural, d'un paysage, d'un contexte. Donc il y a une manière un peu de s'extraire de chacun de ses propres obsessions et de faire en sorte qu'on s'aperçoit que c'est un débat vraiment global.
La dernière ministre a été sensible à la question de l'architecture et a soutenu notre action, ça c'est une réalité, puisqu'elle nous a permis de faire aboutir l'ICA, donc l'Institut culturel d'architecture, et elle a défendu auprès du gouvernement les moyens nécessaires pour que ce projet puisse exister et qui est aujourd'hui donc une réalité. Là où c'est plus compliqué, c'est qu'à un moment donné, je le disais, l'architecture, une de ses contraintes essentielles, c'est qu'il y a énormément d'acteurs.
Vous procédez toujours par interview, comme je le fais dans votre démarche?
Non, on fait aussi des ateliers collectifs. On a pas mal de techniques différentes, ça dépend un peu. En fait, on est venu à l'interview parce qu'on travaille aussi beaucoup avec des personnes qui ne parlent pas forcément bien français ou qui ne savent pas forcément bien lire et écrire. Et donc, nous, notre idée, c'est d'essayer de parler d'une thématique à travers les paroles des gens en leur demandant qu'est-ce qu'ils ont envie que soit publié dans les médias, eux, sur cette thématique. Et donc, on a été amené à développer toute une série de processus pour que les gens puissent s'exprimer en étant à l'aise, sans forcément devoir eux-mêmes faire un article eux-mêmes, etc. Mais l'idée, c'est quand même que... on leur fasse relire, on leur pose des questions et que ce ne soit pas nous qui mettons en forme, mais que ce soit vraiment avec les gens qu'on fait ça.
Ce qui est intéressant aussi de mentionner dans notre équipe, c'est la présence d'un graphiste, bien sûr, Nuno, qui est plus qu'un graphiste, qui est un penseur, qui nous aide à réfléchir, et d'un collectif de deux jeunes femmes habitant des images. Donc Mélanie Peduzzi et Adèle Jacot travaille avec nous, on est vraiment ensemble, main dans la main, sur les camps de base pour les préparer. Et puis au moment même des camps de base, Adèle et Mélanie font énormément de rencontres et d'interviews d'habitants, d'architectes, avec leur approche à elles. Donc elles ne sont pas architectes, elles ont du coup un regard un peu décalé par rapport à la production des architectes et à leur discours aussi, à comment leurs projets sont vécus et utilisés. Et c'est là-dessus qu'elles travaillent en complémentarité avec ce que nous on fait. Donc ça, c'est vraiment... quelque chose dont on est très content.
Dans le cadre de cet inventaire, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, de dire on va questionner la manière dont les choses se décident et aussi montrer que c'est subjectif, parce que même si c'est des experts qui décident de quelque chose, il y a toujours une part de subjectivité aussi. Et là, on l'assume aussi un peu ouvertement, quoi, en disant on va interroger des gens qui n'ont peut-être rien à voir et tout d'un coup, ils vont dire une phrase qui va nous inspirer et qui va peut-être changer notre avis sur un bâtiment.
C'est cette matière humaine qu'elles rencontrent et qu'elles explorent.
Toujours énormément d'acteurs autour d'un projet, et en particulier évidemment d'un projet public, puisque ça concerne les gens. Et que le politique, il est quand même un peu conduit par son électorat.
Notre génération se prépare, prend les armes et se tient collectivement prête pour la chute imminente de l'écosystème, du capitalisme, d'une démocratie illusoire, de l'humanité, de l'éthique. Loin de témoigner d'un nihilisme cynique où régnerait l'absurdité du vide, cet état d'esprit apocalyptique contient déjà les prémices d'un nouveau commencement.
Et la difficulté pour le politique d'oser l'architecture au sens d'oser des choses un peu hors des chemins battus, elle est réelle pour les élus, elle est réelle parce que je dirais que les personnes ont une tendance à juger l'architecture à l'aune de leur propre regard, de leur propre expérience. Et donc ça fait des commentaires critiques qui sont souvent limités à j'aime ou j'aime pas, hein, ou je ferai ça chez moi ou je ne ferai pas ça chez moi, ce qui n'est pas la question en fait, hein. Ce qui n'est absolument pas la question. Donc faire confiance aux architectes pour le politique, je trouve que ce n'est pas encore une chose tout à fait gagnée globalement. Puisque pour moi, un des enjeux, notamment en Belgique francophone, et en particulier en Wallonie, enjeu que je n'ai pas encore réussi à faire porter en tout cas par un gouvernement jusqu'à présent, bah, c'est l'enjeu du Bouwmeester Wallon. Hein, puisque en Flandre, il y en a un, à Bruxelles, il y en a un. Il en manque toujours un quelque part en Wallonie, même si la cellule architecture fait ce travail avec vraiment de nombreux acteurs et de nombreux partenaires. Il n'y a pas encore l'institution, c'est-à-dire ce que peut représenter aussi le fait d'en faire à un moment donné un acte politique, de le considérer comme un passage obligé. Ça, on n'a pas encore réussi à convaincre.
Ce que vous venez de lire, c'est vous qui l'avez écrit ?
Oui, c'est moi qui l'avais écrit. Ouais. Vous voulez que je donne un peu plus de contexte ? Donc, ça vient un peu du fait que j'ai vu autour des gens de mon âge, mais aussi des générations autour de ça, après vraiment une période très cynique, très sombre et sans perspective de futur, j'avais l'impression qu'il y a une sorte de résurgence, on disait comme ça, qu'il y a une résurgence entre les gens, de comprendre que sur le niveau macro, que c'est très difficile de faire des choses, mais que autant mieux de faire des choses ou d'essayer de faire des choses au niveau micro. Cette exposition essaye d'exprimer cet optimisme, si vous voulez, cet optimisme, cet nouvel romanticisme des gens qui se regroupent pour en fait donner sens à leur présent et à leur futur.
La Fédération Wallonie-Bruxelles publie tous les 3 ans un état des lieux de l'architecture en Wallonie et à Bruxelles. Contemporaines, donc toutes les constructions récentes qui sont sorties du sol et les activités aussi culturelles autour de la question de l'architecture, donc sur des tranches de 3 ans.
Il y a encore trop de zones en fait constructibles et c'est ça qui permet malheureusement la continuation de l'étalement urbain et du tartinage de villas 4 façades ad vitam, enfin sans fin.
Et fait appel à des directeurs scientifiques et des curateurs pour organiser à la fois la publication, mais aussi une exposition qui circule à l'étranger et donc donne une image de l'architecture wallonne et bruxelloise à l'étranger.
La qualité architecturale de ces villas, et je dirais même la qualité énergétique, est très faible. Hein. Souvent, en fait, c'est des produits quasiment standardisés, industrialisés, qu'on vous vend un peu comme on vous vendrait une voiture, quoi. Oui, vous pouvez changer les jantes et la couleur, mais ça reste quand même un produit industrialisé. Ceci étant dit, une maison 4 façades, même passive, avec une architecture contemporaine de qualité, ça ne sauve pas tout non plus. Ça ne sauve pas tout non plus parce que il y a des coûts cachés, comme je dis, c'est-à-dire que si vous avez ce que j'ai cité, donc une maison passive avec une architecture de qualité, vous êtes quand même malgré tout peut-être toujours dépendant de la voiture dont je parlais tout à l'heure. Du coup, vous avez, y a rien à faire. La même maison en 2 façades ou 3 façades est plus proche d'une gare ou d'un centre-ville où on peut vivre avec les commerces de proximité, les équipements à distance pantoufle, c'est mieux.
Et c'est dans ce cadre-là que vous invitez, entre autres, à une rencontre, à une journée d'études, de rencontres, d'échanges,
oui.
Pauline Delaboulé.
Exactement. Donc, le but de notre organisation, c'est de collaborer avec des villes, avec des espaces. Avant, c'était 5 ans sur les terrains très idylliques du château de Horst à Holzbeek, c'est pas très loin de Louvain. Et maintenant, on est dans un contexte qui est beaucoup plus urbain, donc il y a une implication de beaucoup de réalités qu'on doit prendre en compte et qu'on veut prendre en compte. Donc c'est avec notre organisation qu'on veut faire ça d'une manière consciente. On organise ces moments de lab, ces moments d'études, ces moments d'échange pour apprendre nous-mêmes, pour notre organisation, mais aussi pour pouvoir donner cette plateforme à notre public en fait. Donc les gens qui viennent à Horst, les gens qui viennent à visiter l'expo, qui vont au festival, d'aussi leur offrir quelque chose qui dépasse ce moment un peu escapiste du festival même, mais aussi d'avoir vraiment une dialogue et un moment d'apprendre quelque chose. Et c'est aussi, en troisième niveau, il y a aussi bien sûr mon pratique, ce que je fais en tant que commissaire, c'est que voilà, je suis aussi très curieuse à découvrir comment on peut de nouveau ou de plus en plus inscrire l'art contemporain dans la société. On fait ça en la présentant ici dans des espaces publics et je trouve que la pratique de Pauline est très très intéressante et très sincère et essaie pas de se vendre mais essaie plutôt de découvrir et d'être honnête et authentique et c'est pour ça que je l'ai invitée pour partager son expérience avec nous.
Et donc nous avons proposé d'ouvrir l'appel, de proposer aux architectes, mais aussi aux éco-constructeurs, mais aussi aux activistes, mais aussi à des personnes comme un collectif comme Horst qui décide d'occuper un site démilitarisé. Nous avons ouvert un appel aux activistes, aux artistes aussi qui se préoccupent un petit peu de questionner le territoire, qui retournent la terre, qui retournent le paysage, qui le... voilà.
Et souvenez-vous, oui. Je vous rencontre à Péronne.
Oui.
Dans
tout
le
Hainaut, voilà.
Et vous êtes deux et vous parlez à des gens. Qu'est-ce que vous faites là ?
Distance pantoufle, c'est quoi ? C'est se dire, bah, c'est tellement près le libraire ou le boulanger que j'y vais en pantoufle ou à vélo.
À la suite de notre appel, nous avons reçu 392 propositions, beaucoup d'actions culturelles, d'activisme, d'initiatives spontanées pour transformer un bout de terre, quelque chose, un morceau de ville qui est entre deux situations. Voilà. Mais également donc des projets du classique, hein, de l'architecture, des musées, des centres ADEPS, des équipements, des maisons individuelles. Voilà. Donc beaucoup de propositions. Nous avons effectué une présélection avec Gilles Debrun, tous les deux. Et nous avons présélectionné 50 actions et 100 constructions.
Je suis simplement occupant et propriétaire d'une maison qui a été construite en 1930. Donc, maison assez classique de rangée. Le choix, il fut plus un choix économique et de se retrouver en centre-ville et de pouvoir utiliser la ville. Le choix lié à l'architecture n'était pas le choix premier. J'avais eu l'occasion de visiter d'autres maisons que je trouvais plus intéressantes, mais il y avait une contrainte qui était celle, la contrainte financière, qui était bien là. Et puis aussi dans mon cas, une contrainte du temps, c'est qu'il fallait que je puisse me décider très rapidement.
Vous parlez de Benoît Dauchy, un Tournaisien, oui, effectivement, oui, qui est guide d'ailleurs dans sa ville et passionné par l'histoire de Tournai. Une des plus belles villes de Belgique, je pense.
Dauchy, Benoît, D-O-C-H-Y.
Et donc Benoît nous a accompagnés pour toutes nos visites, je pense, c'était un de nos fidèles.
150 projets présélectionnés, nous les avons implantés dans une carte Google Maps qui nous a indiqué des zones en Wallonie où, entre 2016 et 2019, il y a eu des constructions intéressantes et des programmes différents. Donc notre proposition a été de dire nous allons faire des visites. L'espace a quelque chose à nous raconter aussi, en plus des images et des discours programmatiques. Nous avons besoin d'éprouver l'espace, donc nous avons organisé des camps. Ça se passe en différentes façons. Donc le premier camp a eu lieu à Tournai au mois de juin.
Et dans notre processus, j'ai parlé des trois camps de base et puis du quatrième jury pour les projets qui n'ont pas été visités. On va inviter Benoît à participer à ce quatrième jury et on en fera de même pour une personne de Liège et une personne de Pont-à-Sel. Donc on est très content d'avoir rencontré Benoît.
Un de nos projets présélectionnés était Péronne et vous nous avez vu au milieu d'un groupement de gens que nous avons rencontrés tout simplement sur la place publique et que nous avons convaincus de devenir membres d'un jury de sélection pour l'inventaire collectif. C'est un pari assez risqué que nous avons fait en nous lançant dans cette aventure, mais nous le faisons intégralement car nous habitons le camp, nous dormons, nous nous lavons, nous vivons sur le camp, nous mangeons sur le camp, ce qui fait que nous devenons des voisins, des riverains. Et notre pari était donc de faire cet acte premier qui est d'habiter le lieu, l'espace public, pour questionner le fait d'habiter le monde, voilà, et entraîner avec nous des personnes dans cette réflexion. Et notre binôme, Gilles Debrun, Pauline de Laboulaye, donc architecte, non-architecte, est représentatif d'une volonté de créer donc des jurys mixtes. Nous avons également des experts architectes qui nous rejoignent sur les camps. Et le processus que nous avons mis en place peut se décrire sur 4 jours et penser dans les moindres détails pour, en tout cas, construire un inventaire hétérogène avec des propositions qui sont étonnantes. On est surpris par l'aventure dans laquelle on s'est lancé.
On peut quand même dire qu'on vit une période assez faste au niveau de la qualité architecturale pour le moment. Donc il y a toute une série de luttes et de processus, de concours, etc., qui ont été mis en place depuis une quinzaine d'années. Le fait d'avoir un Baumeister à Charleroi, la cellule architecture qui a mis en place des procédures de concours exemplaires, tout ça amène à des résultats qui aujourd'hui sont palpables. On a vraiment une production architecturale de qualité. Alors, c'est pas forcément moi qui le dis, je le dis, mais je l'assume et je l'affirme, mais c'est aussi tous les observateurs de l'architecture en Europe et nos voisins français, par exemple, sont hyper fans des architectes belges et bruxellois et wallons. On gagne souvent des concours en France, on est souvent publié dans des revues internationales et on est un peu dans nos années dorées, si je peux dire.
Nous avons 4 critères d'évaluation qui sont l'esthétique, le social, la gouvernance et l'environnement. Et ces 4 critères sont pour nous des moyens d'arbitrer parfois des choix et aident aussi nos experts et nos non-experts à se repérer dans ces 4 paramètres. Mais nous avons mis en place des kits d'évaluation. Les visiteurs ont des outils pour travailler, pour s'aiguiser le regard. Ils rencontrent les architectes. À Péronne, nous avons rencontré à la fois le maître d'ouvrage de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le directeur du centre ADEPS, et les architectes Harold Fallon de Agua, qui donc répondent à des questions, expliquent un petit peu ce qui s'est passé. La conversation est tout à fait intéressante. Et les questions posées souvent... On dit avec Gilles que le fait d'habiter quelque part fait qu'on est tous un petit peu experts de l'architecture.
Inventaire 2016-2019. Triennale dédiée à la création architecturale en Wallonie à Bruxelles. Avec Chantal Dessonville, Adèle Jacot, Olivier Bastin, Benoît Dauchy, Evelyne Simons, Pauline de Laboulaye, Gilles Debrun.
Évidemment, dans les camps de base, on est en train de construire une communauté qui s'élargit à chaque camp de base. Je pense qu'à Tournai, on a dû rencontrer 200-300 personnes. Et ce sera certainement la même chose à Liège et à Pontacel. Évidemment, il y a tous les architectes qui sont notre public cible aussi, évidemment, pour le livre. Mais on a aussi envie que ce livre parle aux administrations de l'urbanisme, aux échevins de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, du logement public, etc. Donc on va essayer vraiment de disséminer ce livre le plus largement possible, d'abord sur notre territoire à nous, la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi à l'international, parce que, comme je le disais, on n'a vraiment pas à rougir, au contraire, de la qualité de notre production.
La ville est comme... Il y a comme des plaques tectoniques qui sont en mouvement, avec des acteurs extrêmement variés, qui sont à la fois politiques, les promoteurs immobiliers, les usagers, les institutions diverses. Ce corps urbain est en vie et nécessite, à mon avis, beaucoup de discussions et de débats. Et c'est ce qui est très intéressant, en tout cas, ce que j'ai découvert en tant que Française en venant à Bruxelles. J'ai découvert ces outils qui m'ont fascinée assez vite parce qu'ils permettaient aussi l'émergence de formes artistiques au sein de quartiers en transformation. Ce sont ces contrats de quartier qui sont quand même assez uniques comme instrument. J'ai découvert cet instrument en venant moi-même vivre à Bruxelles.
On est sur le terrain des Asiates, qui est une ancienne base militaire qui servait à faire de la télécommunication et des parties pour le transport des véhicules militaires. Le terrain a abandonné et la ville de Villefort de l'acheter pour en faire une sorte de nouvel espace public, donc pour l'ouvrir aux citoyens de Vilvoorde et tout le monde qui est intéressé. Et avec notre organisation, on fait partie de cette trajectoire, parmi des autres organisations aussi. Donc on fait une exposition qui s'appelle Fallen Empires and Refound Desires, qui dure encore jusqu'au 15 septembre. Et on a le festival qui nous attend, ça c'est le 13, 14 et le 15 septembre ici. Et ça, le focus est vraiment musique électronique.
D'abord, il y a le facteur humain. On est amis, on s'apprécie et on se côtoie depuis des années. Et puis quand l'appel à projet pour devenir les commissaires du projet inventaire, donc le livre et les expositions qui accompagnent le livre, quand l'appel a été publié, moi je me suis dit, j'ai pas envie de partir avec une équipe que d'architectes. J'ai vraiment envie que, dès le début, on élargisse les choses, et donc élargir la caisse de résonance du projet inventaire, c'est déjà travailler avec d'autres personnes que des architectes. Et donc tout de suite, dans la seconde, j'ai pensé à Pauline, qui a quand même dans son ADN un goût très marqué pour l'architecture, même si elle n'est pas architecte. Et on a eu les idées ont fusé, et voilà, on est parti directement ensemble.
Nous sommes à Vilvoorde, curieusement, Pauline de la Boulay, dans un lieu qui s'appelle...
Asiat, je crois. Alors, la raison, c'est que je suis invitée dans le cadre de Horst pour un laboratoire. Horst est une exposition et à la fois un lieu de rencontre musicale autour de la musique techno avec des fêtes.
Et quand vous dites « nous », il s'agit de...
De l'équipe de Onkruid. Donc Onkruid VZV, c'est l'organisation derrière Horst. Donc Horst est un de nos programmes, de nos activités. Et Onkruid, c'est une équipe des gens. Ça a commencé avec un groupe des amis. Il y a 6 ans maintenant que ce groupe d'amis de Louvain a commencé à consolider leur passion pour l'art, pour la musique, pour l'architecture dans ce festival de Horst. Et moi, je travaille avec eux depuis décembre.
Et l'université, la KUL, l'Université catholique de Louvain,
oui,
participe.
Ils sont partenaires du programme du côté éducationnel. Oui, exactement. Ouais.
Et rappelez-moi votre nom.
Evelyne Simons.
L'occupation de territoires désaffectés, enfin ça c'est le projet de Horst, pour construire dans un moment éphémère un temps de musique et un temps d'exposition et questionner l'architecture, le lieu, l'humain dans ce lieu. Voilà, et donc la curatrice de la partie exposition, je l'ai rencontrée il y a quelque temps. Nous avons discuté de notre intérêt commun pour les espaces en transition ou les espaces abandonnés dans la transition urbaine. Et elle m'a invitée donc à venir parler du projet sur lequel je travaille, qui est l'inventaire collectif d'architecture pour la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Inventaire 2016-2019. Triennale dédiée à la création architecturale en Wallonie à Bruxelles.
Et alors les autres intervenantes du lab sont des personnes, alors c'est assez étonnant, on a une Taïwanaise qui est ici, qui a créé une plateforme qui s'appelle Walkscape Online, elle nous a expliqué ça ce matin, qui donc effectivement cette notion de Walkscape est très intéressante, c'est marcher dans le paysage, le scruter, l'analyser, porter un regard pour parler de la ville en transition. Et puis d'autres intervenants, un artiste allemand.
Avec Chantal Dassonville, Adèle Jacot, Olivier Bastin, Benoît Dauchy, Evelyne Simons, Pauline de la Boulay, Gilles Debras. Inventaire 2016-2019, par Thierry Junico. Et en quelques mots, Pauline de la Boulay, qu'avez-vous dit ?
Dans ce laboratoire aujourd'hui, il y a les organisateurs de Horst qui vont s'installer pour 3 ans sur ce site Asiat à Vilvoorde et donc qui ont souhaité créer une sorte de séminaires pour eux-mêmes aussi, pour savoir comment ils vont développer aussi leur projet ici. Ils ont invité 3 intervenants, une galeriste d'Italie qui a une action très particulière en Sicile. Sa galerie organise des projets dans l'espace public et ne représente que des artistes activistes, donc politiquement engagés. C'est assez original pour une galerie. Il y a Joseph Wouters, qui est donc le metteur en scène de Décor Atelier. Peut-être vous connaissez son travail, et qui est flamand. Et je suis le 3e intervenant, française, mais vivant en Belgique depuis 11 ans, à Bruxelles, scrutant le paysage belge. Durant toutes ces longues années, j'ai mené une analyse sur les espaces et leurs occupations par les artistes, les urbanistes et les architectes. C'est devenu vraiment un sujet qui m'occupe la plupart du temps.
Production, Fédération Wallonie-Bruxelles, cellule architecture.
Retrouvez Par Oui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.